Bonjour à vous tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Ben, je ne sais pas si vous avez regardé hier le discours du trône qui a été lu par la gouverneure générale Julie Payette. Si vous avez entendu l'appel à la nation du premier ministre Justin Trudeau, je sais que sur les réseaux sociaux, ça jase pas mal. Et bien sûr, tous les commentateurs politiques semblent se donner, être d'accord en tout cas pour dire que on continue de dépenser allègrement. Pardon, ce qui s'en vient, c'est bien sûr, en fait, plus ça change, plus c'est pareil. C'est-à-dire que ce qu'on a dépensé au cours des 6 derniers mois, on n'a pas l'intention du tout de fermer le robinet. On va d'ailleurs discuter de ça ensemble. Je pense que celle qui résume bien ça, cette phrase parmi tant d'autres qu'on a eu l'occasion d'entendre hier, c'est celle de la gouverneure générale Julie Payette qui dit « L'heure n'est pas à l'austérité ». Si l'heure n'est pas à l'austérité, d'après vous, l'heure est à quoi d'autre? Il y en a qui sont d'accord avec ça, que c'est pas le moment encore de couper les vives de gens qui ont vraiment besoin encore de se remettre à flot. Hein. Il y a beaucoup de travailleurs, entre autres, qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de familles qui ont de la misère à joindre les deux bouts à la fin du mois. Il y a encore beaucoup à faire. On est toujours en pandémie. Si vous voulez, on va écouter d'ailleurs un extrait de ce qui s'est dit hier.
COVID-19 a été difficile pour tous les Canadiens durant les 6 derniers mois. Pour trop de gens, c'est une question de vie ou de mort. Et pour nous tous, collectivement, c'est le combat de notre génération.
Voilà, combat de notre génération en refilant une partie de la facture aux générations futures. Et c'est ça que j'ai envie de vous demander ce matin. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Cette largesse, ces générosités à plusieurs égards là, du gouvernement de Justin Trudeau, est-ce que ça vous inquiète que la facture soit si importante à ce point énorme qu'on s'en remette pas avant très longtemps? Le déficit est quand même assez important, celui du Québec, celui du Canada l'est évidemment bien sûr, puisqu'on n'arrête pas là d'essayer de faire des programmes les uns après les autres pour essayer de donner un petit peu d'air à tous ceux justement qui en manquent. On va en discuter avec Christian Dufour qui est politicologue. Bonjour Christian.
Bonjour Isabelle.
Jacques Létourneau est président de la CSN, il est avec nous également. Bonjour Jacques.
Bonjour Madame Maréchal.
Je commence avec Christian Dufour. Est-ce qu'on devrait être inquiet, Christian, de ces largesses? Toujours plus facile d'être généreux que l'argent des autres, mais en ce moment, c'est vrai qu'il y a une situation de pandémie.
Ouais, c'est plus facile de descendre la côte que de la remonter après. Bon, c'est clair que l'air n'est pas l'austérité, on peut le comprendre ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que il semble pas y avoir de véritables préoccupations chez le gouvernement de M. Trudeau, depuis très longtemps d'ailleurs, pour le retour à l'équilibre budgétaire, une certaine rigueur, une certaine valeur qui est de vivre selon ses moyens. Là, la crise de la COVID accentue ça. Mais déjà, Justin Trudeau, en fait, son gouvernement se caractérisait par ça. Hein. Quand il a été élu la première fois, bon, il avait dit « on est prêt à faire un déficit ». Puis prévoyait le retour à une rigueur plus grande. Mais ensuite, on a abandonné ça très vite, on s'est mis à dépenser. Bon, hier, quand on écoutait le discours du trône de Mme Julie Payette, écoutez, on devient tout étourdi. Parce que là, on dépense, puis des programmes, puis on est à gauche tout. C'est clair que quelqu'un comme M. Létourneau, sans vouloir lui prêter des idées, je pense qu'il va peut-être être content de ça, parce qu'il est quelqu'un de plus à gauche. Mais moi, pour répondre à votre question, Isabelle, oui, ça m'inquiète, parce que je trouve qu'il y a une espèce de nonchalance, puis tôt ou tard il y a le retour du balancier, c'est les jeunes générations qui vont payer pour cette orgie de dépenses-là.
Ouais, cette orgie de dépenses, dit Christian Dufour. Jacques Létourneau, président de la CSN, évidemment, là, on a vu, on va prolonger la subvention salariale d'urgence jusqu'à l'été prochain. Bon, il y a toujours ce projet de régime d'assurance-emploi là, qu'on veut améliorer, mais bon, ça fait longtemps qu'on le dit, là, ce que ça va arriver, ça c'est d'autres choses. Il y a bien des affaires qu'on veut faire, Jacques Létourneau. Donc, toujours très important, donc l'intervention de l'État, là, il est très interventionniste. En même temps, il y a la facture qui va éventuellement arriver. On risque d'être dans le rouge quand même assez longtemps, là.
Ben, d'abord, je peut-être en réaction à M. Dufour, je ne suis pas certain que c'est un débat dans le contexte actuel gauche-droite, au sens où le Parti libéral du Canada fait exactement ce qu'on souhaite d'un gouvernement en période de crise comme celle que l'on vit. C'est-à-dire que, d'abord, il y a une crise sanitaire. Ça fait pas plaisir là de mettre en place des restrictions puis des mesures comme le port du masque ou la distanciation ou de mais le gouvernement fédéral le fait et le gouvernement du Québec le fait et de façon générale même si c'est imparfait parce que la perfection n'existe pas, on le fait bien. Mais ce qui vient avec, c'est une crise sur le plan économique Et dans ce sens-là, moi, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que j'écoutais hier les réactions. Je disais, c'est pas un débat gauche-droite. Les chambres de commerce du Canada saluent le maintien de la subvention salariale jusqu'à l'été 2021. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des PME qui sont en crise en ce moment. On parle du secteur de l'hôtellerie, du tourisme. Je marchais récemment rue Saint-Denis ou encore partir de la CSN sur Sainte-Catherine, pas au centre-ville. C'est une catastrophe. Il y a 2 PME sur 4 qui sont actuellement fermées. Alors, on dit à ces gens-là, on est en crise, on est en pandémie, on est en crise sanitaire, on met en place des mesures, puis pour le reste, débrouillez-vous. Et là, j'ai même pas parlé des travailleurs, des travailleuses. Je parle au sens PME, des petites moyennes entreprises, des propriétaires, tout ça. C'est évident que dans le contexte actuel, c'est sûr que les mesures sont pas parfaites. C'est sûr que ça vient gonfler le déficit du Canada. Mais juste finir sur une chose et rappeler, parce que ça, souvent, on l'oublie. Quand on est rentré en crise, la position du Canada était relativement enviable sur le plan de la dette. Quand tu nous compares à d'autres pays du G7, comme celle du Québec d'ailleurs, monsieur le ministre des Finances, là, quand on est arrivé en crise, il a dit la réserve de stabilisation, il y a des milliards là-dedans, ça va nous permettre de traverser la crise. Si on n'était plus en pandémie, s'il y avait une réelle reprise de l'activité, là, moi, je serais le premier à dire, OK, peut-être qu'il faut bien mesurer ça va être quoi l'impact sur les finances publiques et sur le long terme, mais honnêtement, là, dans le contexte actuel, je pense que le gouvernement n'a pas le choix et la pire des erreurs, ce serait d'annoncer qu'on est en austérité. D'ailleurs, ni Ottawa parle d'austérité, puis pas plus M. Legault à Québec ou M. Girard. Tout le monde se tient loin de l'austérité parce qu'on a vu en plus, ça a été quoi les impacts de l'austérité au Québec? Des écoles, puis des...
Mais Jacques Létourneau, je me permets de... Oui, je comprends, Jacques, mais là, on dit, évidemment, le mot-clé, c'était peut-être une bonne façon de mettre la chose, en disant, c'est pas le moment de quand elle dit, là, Julie Payette, là, qui lisait, là, finalement, on comprend, là, qu'elle lisait, elle était lectrice, mais quand elle dit, c'est pas le moment de revenir à l'austérité, entre parler d'austérité... puis dire, on va juste un petit peu plus penser, réfléchir au genre de programmes qui sont vraiment nécessaires aujourd'hui, à six mois après le début de la pandémie, alors que là, on a quand même déconfiné. On ne demande pas l'austérité, c'est clair. Personne ne serait d'accord avec on coupe tout le monde, puis on est austère. Mais il y a quand même des limites à continuer de dépenser dans certains secteurs, non? Parce que, en même temps, puis là-dessus, peut-être, Christian?
Ben, c'est clair que personne ne parle d'austérité.
Mais oui, c'est ça.
C'est évident. C'est pas ça l'enjeu. Mais en tout respect pour M. Létourneau, c'est pas vrai que le gouvernement n'avait pas le choix. Un gouvernement, par définition, a toujours le choix. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a aucune préoccupation crédible chez ce gouvernement-là pour l'équilibre des finances publiques, pour certaines rigueurs. Et même quand on était en période de prospérité, il accumulait déficit sur déficit. C'est ça qui est troublant là-dedans. Puis c'est facile de dépenser. Il y a un effet pervers là-dedans. C'est clair que sur le coup, on est dans une période de grand malheur notre société.
Ah oui.
Puis que, bon, les entreprises qui reçoivent des subventions, les individus qui reçoivent des subventions, ils sont contents sur le coup. Donc, je trouve ça très facile, très démagogue, en fait, de se limiter à dépenser. Moi, ce que j'aurais aimé hier, c'est sentir, non pas l'austérité, là, personne ne parle d'austérité, mais sentir une vraie préoccupation à terme pour les finances publiques. En disant, on est conscient que c'est une période exceptionnelle, là, il faut dépenser, mais à un moment donné, il va y avoir une fin à ça. Puis il y a des valeurs aussi en dessous de ça. Au-delà là, des débats de chiffres, là, dire, tous les citoyens essaient d'équilibrer leur budget, d'être un peu rigoureux. Ça fait des années et des années qu'au Canada, on vit comme si on était à l'Alice au Pays des Merveilles, puis que les ressources étaient illimitées. Et puis moi, je trouve qu'il va y avoir tôt ou tard un retour du balancier. Donc, je crois pas du tout que le débat est sur l'austérité ou pas, puis que le gouvernement n'avait pas le choix. On peut faire ça de différentes façons. Et M. Trudeau, c'est son choix politique. Il y a un côté remarqué positif, parce qu'il va y avoir une élection là, qui s'annonce. Là.
Oui,
et c'est clair
c'est
que
ça.
Le marché...
A commencé hier, je pense pas mal, la campagne.
C'est ça, donc, le territoire politique du gouvernement Trudeau est très clairement à gauche. Bon, les conservateurs vont probablement se positionner de l'autre côté, donc les Canadiens choisiront.
Oui, Jacques Létourneau là-dessus. Beaucoup de gens m'écrivent en ce moment, Jacques Létourneau, puis ils me disent qu'ils sont, vous faites une bonne analyse, puis qu'effectivement, s'il n'y avait pas toujours cette aide, en fait, je lis Jacinthe là, qui m'écrit, elle dit, si le gouvernement fédéral n'aidait pas les Canadiens présentement, les problèmes sociaux et économiques iraient en augmentant, ménages sans revenus pour les dépenses courantes, entreprises fermant leurs portes, entraînant encore plus de chômage au cours des prochains mois, car la crise est loin d'être terminée. Donc, elle dit, ce serait pire si le gouvernement fédéral n'aidait pas. Ceux qui chiales sont sans doute ceux qui n'ont pas besoin de cette aide. Donc, il y a effectivement des gens là, qui sont d'accord avec ça. On a beau dire que c'est électoraliste, cette attitude-là. Qu'est-ce que ça veut dire électoraliste? C'est que ça va chercher des votes. Puis, oui, sans doute. Là.
Ben, en fait, je ne veux pas avoir l'air du militant libéral, ce que je ne suis pas. Là.
Mais non, c'est ça, justement.
Non, pas du tout. Non, ça, en fait, ça n'a rien à voir. Mais s'il y a une critique qu'on pourrait adresser, là, je ne suis pas sûr que M. Dufour va être d'accord avec moi, mais s'il y a une critique qu'on devrait adresser au gouvernement, c'est bien celle de ne pas travailler avec les provinces et de profiter de la crise. Mm-hmm. Et là, je vais être d'accord avec le chef du Bloc ou encore même avec M. Legault. Bon, M. Legault ne dit pas qu'on dépense trop. M. Legault dit on a besoin d'argent en santé, ça nous revient de plein droit. D'ailleurs, il y a une alliance actuellement entre les provinces, là, pour être capable justement de bâtir des maisons pour les aînés, d'afficher des postes, de créer des emplois, tout ça, donner des bonnes conditions de travail. Donc, le gouvernement du Québec a raison de dire c'est dans les transferts canadiens en santé que on devrait faire percoler cette mesure de dépenses. Et sérieusement, quand on nous annonce les garderies, champs de compétences provinciales, le logement social, la formation de la main-d'œuvre, ça fait des années qu'on assume ces responsabilités-là au niveau du Québec. Là, il me semble que M. Trudeau fait vraiment de la politique. Là, s'il y a vraiment quelque chose, comme je disais, il n'y a pas le choix, là. Il n'y a pas le choix par rapport à la crise. Mais il y a vraiment le choix, par contre, de décider si oui ou non il respecte le champ de compétences des provinces ou s'il accepte de travailler avec les provinces. Et là, là-dessus, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont le gouvernement libéral à Ottawa est en train de gérer la crise. Mais il en profite. Là, il fait vraiment de la politique. Puis là, il se dit, moi, je vais profiter de cette situation-là pour dire, voici comment nous, comme gouvernement fédéral, on va se porter en sauveur des enjeux des Canadiens et des Canadiennes en santé, puis en mesure de développement social.
Et on aimerait aussi un petit peu en recevoir aussi de ces largesses au Québec. On peut penser à l'industrie aéronautique. On en parlait la semaine dernière avec mes auditeurs, puis il y a beaucoup de gens qui se plaignaient. Bon, il y a plein de dossiers là-dedans. D'abord, il y a des milliers d'emplois au Québec qui dépendent de ça. C'est une industrie très importante. Tout le secteur aéronautique, c'est majeur pour les Québécois. Il n'y a pas eu d'aide à ce que j'ai vu là-dedans dans ce qui a été annoncé hier. Peut-être que c'est souhaitable qu'il y en ait éventuellement, mais on ne l'a pas annoncé hier. On va s'arrêter ici, messieurs, si vous voulez bien. Je vais donner la parole à des auditeurs, leur donner la chance de nous dire là, comment ils voient la chose. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à dire, ben là, on est encore en pandémie, c'est normal, Justin Trudeau, il y a raison de continuer à garder le robinet ouvert parce qu'on ne veut pas avoir de mesures qui n'aiderait pas tout le monde. On a encore besoin de cette aide du fédéral. Ou plutôt de dire, là, ça suffit, là, parce que là, on s'en remettra jamais. Là. Imaginez la facture. Je vais vous donner des chiffres juste de notre dette record. On a une dette assez importante, vous n'en reviendrez tellement pas. T'sais, on n'y pense pas. C'est quoi la dette du Canada? On ne le sait pas, on vit notre vie. Mais si je vous dis 1000 milliards de dollars, c'est tellement gros qu'on se dit 1000 milliards de dollars. Là, c'est de l'argent. Il va falloir à un moment donné rembourser une partie de cette dette-là. On a un déficit important également. 514-790-9850 pour nous joindre à Montréal. Et de l'extérieur, partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite. Avec nous, plusieurs auditeurs là, qui veulent intervenir et qui veulent répondre donc à cette question. Avez-vous êtes-vous content là, de ce que nous a annoncé le gouvernement de Justin Trudeau hier, c'est-à-dire qu'on continuait de dépenser parce que la pandémie nécessite l'intervention du fédéral à plein de niveaux? Ou au contraire, est-ce que les largesses financières du gouvernement Trudeau vous inquiètent parce que vous vous dites éventuellement on pèle par en avant, mais à un moment donné, là, on va frapper un mur? J'aimerais vous entendre là-dessus, Pierre. Vous en pensez quoi, vous, à la lumière aussi de l'analyse de mes deux invités?
Oui, bonjour Isabelle. Moi, je suis loin d'être content, je suis découragé. Je l'étais déjà quand le premier ministre Trudeau faisait sa campagne électorale, il avait dit qu'il augmenterait les petits déficits à chaque année qui ont été bostés, qui ont dépassé de beaucoup. Ce qu'il avait dit quand ça allait bien, puis normalement, dans une économie ou un peu même dans une famille, quand ça va bien, on met de côté, puis quand ça va aller mal, lui, pas de problème. Ça va bien, on dépense. Ça va mal, on dépense encore plus. Mais là, ce qui m'inquiète, premièrement, j'espère qu'on va arrêter de dire que le Canada est un pays riche avec 1 000 milliards de dettes, comme vous le disiez. Mm. Mais là, ce que je compte, qui aide le monde, je suis d'accord, mais qui crée des nouveaux programmes qui vont coûter des fortunes, les garderies, regardez ici combien ça a coûté, puis les médicaments, l'assurance médicaments, s'ils mettent ça d'un bord à l'autre du Canada, ça va coûter les yeux de la tête, comme on dit, ça va coûter une fortune. Puis il faut pas oublier qu'après, tout ce qu'on paye, tout ce qu'on prend là, va falloir le rembourser. Puis qui rembourse ça au Québec? C'est moi puis d'autres concitoyens comme moi qu'on appelle la classe moyenne. Faut pas oublier qu'entre autres au Québec, il y a 40% du monde qui paye pas d'impôts. Fait qu'eux autres peuvent bien dire, donnez-moi tous les services que vous voulez, augmentez tout, il y a pas de problème. Ils savent bien qu'ils assumeront pas probablement la facture plus tard. Mais nous autres, on était déjà pas mal égorgés, ça va être encore pire. Mmh. Fait que c'est pour ça que je trouve que le premier ministre Trudeau dit chori, aider le monde, parfait, mais il faut pas créer, c'est pas le temps de créer des nouveaux programmes de dépenses quand t'es déjà mal pris puis que la dette augmente de façon vertigineuse.
Merci beaucoup, Pierre. Très clair, merci. Votre opinion. Merci bien. Annie, bonjour.
Bonjour. Oui, moi, comme la personne précédemment, mm-hmm. ça fait des années que je dis qu'on va arriver à payer 100% d'impôts et je pense qu'on s'en va, on va le dépasser, le 100%. On répète la recette de la première vague, le dépenser. Et ça a donné quoi? Au fond, ça a donné une dette énorme et une économie en lambeaux. Et une épidémie, ça va durer 2-3 ans probablement. Qu'est-ce qui va rester s'ils refont la même recette au bout de 3 ans? Qu'est-ce qui va rester de l'économie? Ce sera pas beau. Et ça a donné quoi, cette recette-là, de donner de l'argent là à n'en plus finir et de garder les gens chez soi pour pas travailler?
Là-dessus, Annie, quand même.
Cet été, on cherchait des gens pour travailler. Tout le monde était sur la PCU. Tout le monde voulait être payé sous la table. On se demande vraiment, moi, je me pose sérieusement la question, si le but du gouvernement Trudeau, c'est pas de détruire complètement l'économie du pays pour aller vers d'autres choses. Et ça, je trouve que ça met de l'eau dans le moulin là, de tous ceux qui pensent que la COVID, c'est un gros scam. Pas moi, je ne pense pas parce que je l'ai eu, je sais ce que c'est. Mais on s'en sort aussi, il y a très peu de mortalité. Est-ce que ça vaut la peine de détruire l'économie d'un pays?
OK, mais je pense pas que ça soit le but du gouvernement. Là. Vous dites que le but de Justin Trudeau, c'est de détruire l'économie. Je veux dire, il y a zéro intérêt à faire ça, là.
En janvier 2021, c'est-à-dire en janvier prochain, il y a le sommet économique de Davos qui s'en vient. Et quand on regarde le programme du sommet économique de Davos, le programme comme tel s'appelle le Grand Reset. C'est le programme et vous regarderez le programme de ce sommet économique de Davos qui était prévu pour janvier 2021, qui a été reporté à mai, et ça s'appelle le Grand Reset. Une des composantes de ce Grand Reset-là, c'est de prendre en main le contrôle de tous les aspects des économies de tous les pays, finalement. C'est assez épouvantable. Moi, je ne crois pas là, à toutes ces théories là, du complot et tout ça, mais le moindrement là, qu'on s'informe et le moindrement qu'on regarde, c'est écrit noir sur blanc, et c'est le sommet économique de Davos. C'est pas des petits... c'est pas n'importe qui sur Facebook. Là. Alors, on se pose des questions parce qu'on s'en va vers ça. Lorsque l'économie va être détruite, qu'est-ce qui va nous rester? Est-ce qu'on...
Moi, je comprends. Je vais faire interviewer mes invités là-dessus par rapport à ce que vous dites, ce que disait Pierre tout à l'heure. Je vous représente Christian Dufour, politicologue. Le président de la CSN est avec nous, Jacques Létourneau. Jacques Létourneau, là-dessus, justement?
Ben non, non seulement je pense pas que l'objectif du gouvernement fédéral, c'est de détruire l'économie. C'est pas l'objectif non plus du gouvernement du Québec. Je pense que de façon générale dans le monde, il n'y a pas un gouvernement qui veut détruire son économie nationale. Le problème, c'est qu'on vit une crise. Puis là, il y a différents niveaux d'appréciation. Là, je parle de la pandémie, bien sûr. Il y a des gens qui trouvent qu'on en fait trop. Il y en a d'autres qui trouvent qu'on n'en fait pas assez. Il n'y a pas de... J'écoutais M. Dufour, là, qui est analyste parfois dans les tribunes à Radio-Canada, qui disait « Les gens gèrent ça. Les dirigeants de nos gouvernements gèrent ça aux 2-3 jours, en fonction de la courbe et des statistiques. » Fait que, moi, je pense que actuellement, on essaie de voir comment on peut au maximum protéger santé publique tout en soutenant l'économie. Et c'est un peu comme je le mentionnais au départ. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Il y a des gens, j'entendais des médecins dire récemment, ils n'ont jamais prescrit autant d'antidépresseurs.
Oui, oui, il y a une augmentation de 21% au Québec. Ouais.
C'est un drame social qu'on est en train de vivre. Fait qu'un gouvernement qui essaie de trouver un chemin pour soutenir les gens, imaginez si le gouvernement faisait le contraire et nous disait « Ah non, non, nous, là, c'est le maintien de l'équilibre budgétaire, on ne peut pas se réendetter, débrouillez-vous. » Il y avait quelque chose d'assez extraordinaire dans le discours hier qui disait on veut pas que les personnes s'endettent. Là. C'est le gouvernement, c'est collectivement
qu'on se donne. Mais je vais donner la parole à Christian, tu es en train de pomper à l'autre bout. Là.
Ben, moi, j'aimerais bien que M. Letourneau me dise quand est-ce que j'ai dit que le gouvernement gérait ça aux 2-3 jours, dépendamment de la crise. Franchement, j'ai jamais dit ça d'aucune façon. Moi, je trouve que le problème, à mon sens, c'est que ceux qui ont lu le discours du trône d'hier, c'est pas tout le monde, là. Moi, j'étais obligé de le faire parce que je commentais. C'est très clair dans le discours du trône que c'est pas juste des dépenses liées à la COVID. Si c'était des dépenses liées à la COVID, tout le monde serait pas mal d'accord. On n'est pas dans l'austérité. C'est pas ça le débat. Le débat n'est pas de savoir est-ce qu'on est dans l'austérité ou dans les dépenses. C'est pas ça. C'est que le gouvernement, en fait, se sert de la COVID, en fait, pour proposer, il a le droit de le faire, un nouveau projet de société où il y a énormément de dépenses nouvelles. Il y a une présence nouvelle du gouvernement dans notre société, moi qui me dérange, et tout ça coûte de l'argent. Et c'est pas vrai que tout ça est lié à la COVID.
C'est clair.
La lutte contre le racisme, là, puis les autochtones, c'est pas lié à la COVID. Jusqu'à un certain point, ça fait plusieurs semaines qu'on le disait, le gouvernement Trudeau veut arriver avec un nouveau projet stimulant à gauche. Bon, là, il a réajusté ça pour ajuster ça à la COVID. Mais le problème que j'ai, je comprends qu'on dépense, on n'a pas le choix de dépenser, sur le coup, les gens qui reçoivent de l'argent sont contents, mais ce gouvernement-là n'a pas de crédibilité en matière de rigueur, en matière de retour à une certaine équilibre financier. On a toujours dépensé, on continue à dépenser, puis à dépenser, puis à long terme, ça nous mène où, ce truc? Donc, c'est pas vrai. C'est trop facile, je trouve, de jouer sur la peur de la COVID, de dire, ah, on n'a pas le choix, c'est lié à la COVID. J'inviterais les gens là qui sont vraiment studieux. Lisez-le, le discours du trône hier, là. On est étourdis, on a le tourni quand on lit ça. Il y a un tas de nouveaux programmes de dépenses, et puis la majorité de ces choses-là ne sont pas liées à la COVID. C'est pas vrai, ça.
Oui, effectivement, on pourrait effectivement penser ça. On va aller à la pause, on va donner l'occasion aux auditeurs également d'intervenir. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, parce que quand on dit plus de 1000 milliards, la dette du Canada, ça nous passe de juste parce qu'on ne sait pas que ça peut vouloir dire. Là. 1000 milliards, là, c'est 1000 fois 1 milliard. Si je vous dis, là, c'est presque 300 ponts Champlain. Le pont Champlain, là, qu'on a chialé que ça coûtait cher et que ça prenait du temps. Quasiment 300 fois ça. Là. Ça, c'est la dette du Canada. C'est quelque chose. Ou encore, pour ceux qui ont fumé le stade olympique, c'est-à-dire que grâce à vos taxes de cigarettes, vous avez largement contribué à payer le stade, 400 stades olympiques. Et là, on commence à avoir une proportion de ce que ça peut vouloir dire. C'est quelque chose. C'est quelque chose. En même temps, vous allez me dire, tous les pays ont des dettes. Là. Nerve-toi pas avec ça. Non, mais il y a des limites. C'est quand même du pelletage par en avant de problèmes qui, à un moment donné, vont être évidents et puis la facture va être importante. Donc, oui, on comprend. Pandémie, en même temps, est-ce qu'on aurait pu se garder une petite gêne? Vous me le dites après la pause au 514-790-9850. Bonjour Sarah, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été énoncé hier par Justin Trudeau, c'est-à-dire qu'on va continuer à aider parce que la pandémie nous oblige à le faire, continuer à aider les Canadiens avec toutes sortes de programmes généreux et en même temps, on a annoncé plusieurs choses. Il y en a qui disent que le gouvernement est encore beaucoup trop généreux alors qu'on devrait peut-être se garder une petite gêne et avoir plus de rigueur. C'est en tout cas ce que dit mon invité Christian Dufour, il déplore le manque de rigueur économique en ce moment. Vous en pensez quoi, vous?
Oui, bonjour. En fait, moi, je suis un peu d'accord avec le fait de continuer à aider le monde, comme le disait votre invité. Donc, il faudrait aider le monde, mais il faudrait peut-être sélectionner ce monde. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis travailleur autonome. J'ai pris un méchant coup durant cette pandémie parce que je travaille dans le domaine de l'immigration et c'est un domaine qui a fermé bien avant tous les autres domaines. Donc, vu les frontières, tout ce qui se passait dans le monde, je vous dirais que... Et l'aide qui a été offerte par le gouvernement pour les entreprises, je ne rentre pas dedans, vu que je n'ai pas des frais fixes de 40 000. Comment je fais pour pouvoir payer mon bureau, payer mon hypothèque, payer mes affaires, mes enfants? On est deux travailleurs autonomes. Donc, je crois que, oui, aider le monde, mais sélectionner le monde que vous aidez. Le monde qui sont juste assis à la maison. J'ai deux diplômes. Je me cherche un emploi aussi en comptabilité. Mais essayez de vous faire employer par une entreprise qui a aussi des difficultés financières.
Ouais, exactement. Je pense
donc,
que vous mettez...
On est dans un cercle vicieux qui est assez difficile.
Effectivement, très bon point. Ce que nous dit, et puis peut-être je me tourne vers Jacques Létourneau de la CSN sur ce point-là, d'aider les Québécois qui ont encore de la difficulté à justement à se prévaloir de tel ou tel programme parce qu'ils répondent pas aux objectifs du programme. Ça, il y en a là quand même. Il y a ceux qui tombent, comme on dit, entre les cracks, là, qui sont pas couverts.
Absolument. Et d'ailleurs, on entendait le gouvernement de M. Trudeau annoncer que on va passer de la PCU vers une réforme de l'assurance-emploi. Et nous, ça fait des années qu'on dit que le régime d'assurance-emploi, juste rappeler que c'est à même les cotisations et des employeurs et des travailleurs. Là. Le gouvernement n'est pas une scène là-dedans. Là. C'est les travailleurs et les employeurs qui payent, qui cotisent à la caisse. Ça fait des années qu'on dit que l'assurance-emploi n'est pas adaptée aux nouvelles réalités du monde du travail. Et ce que madame vient de dire, là, on s'en est aperçu dans la crise, que quand t'es une travailleuse autonome, tout le travail qui est considéré atypique, là, ben vous passez carrément dans les craques du plancher. Et nous, hier, ce qu'on entendait du gouvernement, c'est de dire on veut adapter le programme d'assurance-emploi pour justement permettre d'ajuster finalement aux nouvelles réalités du monde du travail le filet de sécurité sociale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là. On a réalisé effectivement dans le cadre de la crise qu'il y avait bien du monde qui n'était pas couvert par le programme d'assurance-emploi. Là, il y a eu la PCU, encore là, bien imparfaite, mais sérieusement, moi j'avais ce débat-là avec le ministre du Travail au Québec il n'y a pas si longtemps, qui, justement, reprenait cette idée que la PCU a été trop généreuse puis que les gens n'ont pas voulu aller travailler. Ben, j'ai dit peut-être qu'il y a un autre problème, c'est que les salaires sont pas assez élevés.
Ouais.
Quand tes salaires, quand t'as presque 1 million de travailleurs au Québec qui travaillent en bas de 15 $, ben, ça se peut que si un programme est plus généreux, tu vas t'accoter dessus plutôt que d'aller travailler à 13 à 14 $. Donc, puis moi, je pense que ça reste quand même marginal parce que la PCU a aidé la très grande majorité des travailleurs qui ont été, entre guillemets, victimes de cette pandémie, de cette crise. Mais donc, profiter justement de cette conjoncture-là pour ajuster le filet de sécurité sociale,
ouais.
Je pense que c'est une bonne idée.
Oui. Nicolas, bonjour. Votre opinion là-dessus, sur notre discussion de ce matin, là, en réaction à ce qui s'est dit hier?
Bonjour Isabelle. Mais moi, ça va totalement dans le sens de ce que votre intervenant vient de dire, parce que il y a des gens pour qui ça a été la plus grosse augmentation de salaire de leur vie, la PCU.
Ouais.
Des gens qui faisaient même pas 500 $ ou 600 $ par mois se retrouvent soudainement avec 2000 $.
Ben, quelqu'un qui fait pas 600 $ par mois, c'est parce qu'il est sur l'aide sociale, là?
Ben, il y a des gens qui travaillent à temps partiel, qui sont des étudiants et qui travaillent, mettons, le vendredi soir puis le samedi à l'épicerie.
Oui, oui, oui. Mais ça fait partie, je pense, Nicolas, de ce que mon invité disait. Là. Il y a des gens qui auraient peut-être pas eu accès, puis qui auraient peut-être pas dû avoir accès, mais qui l'ont eu. Les étudiants, ben si la règle, c'est si tu faisais plus de 5 000 $ dans ton rapport d'impôt de l'année 2019, t'étais couvert. Donc on peut pas dire que si c'est ça la règle, ben elle vaut pour tout le monde, y compris les étudiants. Là. Après, c'est les règles peut-être qu'il aurait dû revoir. Et puis pourquoi 2000? Pourquoi? Est-ce que 1 000 ça aurait été suffisant? Est-ce qu'on aurait dû y aller selon, justement, les braquettes de revenus des gens? Quelqu'un qui fait 5 000 aurait-il dû avoir 2 000 par mois depuis 6 mois? Peut-être pas, mais quelqu'un qui était habitué à un salaire de 30 000 ou 40 000 puis qui perdait son emploi du jour au lendemain, peut-être qu'on aurait peut-être pu contribuer plus. C'est ça, c'est que ça a été la même règle pour tout le monde. C'est peut-être là le problème.
Je trouve que c'est ça le problème parce que, en plus, ces gens-là, ils paieront jamais d'impôts qu'ils ont eu sur cette PCU-là.
Oui, parce qu'ils n'en ont pas assez.
En dessous du seuil.
Merci de votre témoignage. Merci bien. Michel, bonjour.
Bonjour. Moi, je suis un travailleur, j'ai 65 ans. Je suis très en faveur du budget de M. Trudeau. Là. J'ai jamais voté Trudeau de ma vie, mais on n'a pas eu aucune aide du côté provincial lors de cette pandémie-là, aussi grave qu'elle est. Là. Si je travaillais autonome, je me serais retrouvé sans la moindre aide financière avec notre gouvernement provincial. C'est inacceptable, c'est pas croyable. Là. Je veux dire, on est des travailleurs, on c'est correct qu'on reçoive un montant. 2 000 $ aujourd'hui, il ne faut pas sauter dans les airs. Il y en a qui disent qu'ils gagnent trop, ils gagnent trop. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec 2 000 $, tu te payes un loyer, puis tu te nourris, puis c'est tout, là, dans un mois. Là. Un loyer, le moindrement propre, c'est 1 000 $ par mois, puis se nourrir, c'est des 1 000 $ par mois. Il faut pas sauter dans les airs.
Ouais, merci beaucoup. Donc vous êtes d'accord avec ça, même si normalement vous n'êtes pas toujours d'accord avec Justin Trudeau, pour vous c'est une bonne mesure.
Exactement, oui, c'est ça.
Merci Michel, merci bien. Donald, votre opinion là-dessus?
Bonjour Madame Maréchal, moi je crois qu'on amplifie un peu la dette. Écoutez, si le gouvernement donne généreusement de la main droite, c'est parce qu'en quelque part il sait qu'il rapporte de la main gauche. Si on calcule toutes les taxes qu'ils ont et vont doubler, partout. Puis si on calcule toutes les pensions, les rentes et autres que nos gouvernements n'ont plus à payer dû à tous ces décès, puis si on calcule les 400 et 150 000 piastres d'étiquettes qu'ils vont donner un peu partout, je pense qu'ils sont pas en déficit.
Ah, oui? Vous pensez ça? OK.
Ben, y a des gens qui rentrent si on est généreux comme ça, tu sais.
Oui. Ben, vous parlez des gens qui sont morts à qui on n'a plus besoin de payer de... C'est une façon... Wow, c'est quasiment cynique comme commentaire, mais vous avez pas tort. On regarde ça dans les faits, mais dans les faits, il y a 9 000 personnes qui sont mortes de la COVID au Canada. 1 million dans le monde, mais chez nous, c'est 9 000 personnes. Donc, je suis pas sûre que ce soit une grosse économie. En même temps, la question de l'économie est centrale. Parce que là, maintenant, c'est comment peut-on relancer l'économie? Et ce qu'on a compris dans le discours du trône et dans l'appel à la nation de Justin Trudeau qui avait là matière à relancer l'économie. J'aimerais aller voir notre ami Christian Dufour ici. Qu'est-ce que t'en penses, Christian?
Ben, je revenais peut-être sur la PCU parce que dans un premier temps, je pense que c'était la chose à faire, la PCU, parce que c'était vraiment une énorme crise. Puis là, il fallait pas, en fait, s'enliser dans les détails. Mais là, on sait qu'il y a des gens qui ont eu droit à la PCU qui n'auraient pas eu qui n'auraient pas dû avoir droit à la PCU, puis il y a des gens qui en auraient eu besoin, puis qui sont passés dans les cracks, comme vous dites. Bon, ça peut se défendre dans la mesure où là, on n'avait pas le temps de fignoler tout ça. Mais là, ça fait 6 mois, là, hein, qu'on est dans cette crise-là. Donc, je m'attends du gouvernement du Canada à ce qu'il y ait là davantage de rigueur, davantage de préparation. Hein, on n'est pas dans la phase de la PCU. Et je le rappelle, moi, je suis convaincu que dans le discours du trône du gouvernement hier, il n'y a pas juste des aspects financiers, il n'y a pas juste des aspects d'aider le gouvernement. Il y a un programme politique, là, où on veut que l'État soit beaucoup plus présent dans notre société, que l'État donne plus de services, d'argent aux citoyens. Bon, c'est une vision qu'ils ont le droit de défendre. Mais je trouve que ça n'a rien à voir avec la COVID, ça. Et puis, on a le droit d'avoir des réticences à l'égard de ça. Moi, je ne cache pas mon malaise face à un État qui va avoir tendance à devenir omniprésent, au détriment parfois de nos libertés. Tout à l'heure, moi, je n'ai pas eu le temps de revenir là-dessus. Jacques-Éric Tourneau a critiqué le gouvernement Trudeau en disant « Oui, c'est bien beau, ces dépenses, mais il ne respecte pas les compétences provinciales là-dedans. Hein, » Bon, mais je trouve que c'est très naïf, si vous me permettez l'expression, de penser que le gouvernement fédéral va se limiter à dépenser, à donner de l'argent aux provinces, puis qu'il n'y aura jamais de conditions. Il faut vivre dans le réel aussi. Là. C'est le fédéral, à un moment donné, ça, toute l'histoire du fédéralisme canadien est marquée par ça. À un moment donné, quand il se met à donner des subventions aux provinces au-delà d'une certaine limite, il arrive toujours avec ses conditions. On le voit, là, dans le discours du trône hier, ça a été répété dans l'adresse à la nation de Justin Trudeau en soirée, on nous parle de nouvelles conditions nationales dans le domaine des soins aux aînés. Hein? Donc ça, c'était écrit dans le ciel que ça arriverait. À partir du moment où on a vu des militaires canadiens entrer dans le CHSLD pour faire un bon travail. Donc, vous savez, c'est bien beau Alice au Pays des Merveilles, là, mais il faut rester dans le réel. Moi, ce que j'aime pas dans ce gouvernement-là, je comprends que dans un premier temps, ils sont populaires parce qu'ils dépensent.
Bon, Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Ben oui.
Tout le monde aime le Père Noël. Hein, okay? Mais Noël, à un moment donné, ça se termine le 26 décembre. Et moi, c'est ça. Je trouve qu'il y a une crédibilité qu'ils n'ont pas. Et ce que je trouve très critiquable, c'est de se servir de la COVID pour imposer le programme politique. Ça me fait penser à Valérie Plante un peu. En moins pire, vous me direz, là. Valérie Plante qui s'est servie du malheur public à Montréal pour imposer ses idéologies.
Ouais, merci. On doit aller à la pause. On va revenir parce que Christian Dufour a dit beaucoup de choses en réaction d'ailleurs à tout ce que vous nous dites et au président de la CSN. J'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, c'est bien beau là, les champs de compétences du Québec. Mike me dit, moi, je veux bien, mais est-ce que le Québec a fait vraiment la démonstration au fil des ans qu'il dépensait bien notre argent, l'argent des transferts en santé? Le pire bilan, une hécatombe, on l'a vu là, dans les résidences, c'était au Québec. L'armée a dû venir à la rescousse, dont le fédéral devrait respecter le champ d'incompétence du Québec. Je la trouve très bonne, Mike, celle-là. Champ d'incompétence du Québec. Très bon. On s'arrête ici, on vient tout de suite après. Je vais parler à Caroline qui va réagir donc au discours de Justin Trudeau hier et au discours du trône de Julie Payette avec toutes ces promesses qui ont été faites et maintien de la plupart des programmes et des engagements économiques là, pour aider les Canadiens et les Québécois à sortir de la pandémie. Vous en pensez quoi, vous, Caroline? Êtes-vous d'accord à cette générosité encore là, du fédéral?
Oui, bonjour Isabelle. Je suis en fait d'accord partiellement. C'est sûr qu'il y a eu des grands oubliés dans la pandémie. Je vais vous parler de mon cas en particulier. Je suis mère monoparentale d'un enfant lourdement handicapé de 15 ans, mm-hmm. avec une maladie dégénérative et je suis policière à la base, donc je fais un bon salaire. Et j'avais aussi établi un système, un réseau de soutien là, pré-pandémie qui me permettait de travailler et de pallier avec ma réalité, avec des heures atypiques, etc. Mm-hmm. Fait que j'étais en mesure d'arriver avant. Toutefois, depuis la pandémie, tous les services que j'avais mis en place ont été coupés. Je me suis retrouvée avec un enfant en chaise roulante avec 2 ans d'âge mental à la maison. Donc, j'ai dû arrêter de faire des paiements hypothécaires et payer de l'aide à domicile durant toute la journée, ce qui me coûtait, en calculant l'aide que le CLSC me donne, ça me coûtait au-dessus de 1 000 $ par semaine. Donc, je me suis retrouvée dans une situation excessivement précaire dans laquelle je suis encore présentement. Donc, on n'a pas eu d'aide supplémentaire de notre côté, malgré notre bon vouloir. Là. Donc, puis mon fils de 22 ans, lui, étudiant, faisait 2 000 $ par mois. Donc, c'était plus d'argent qu'il faisait avant la pandémie. Donc, c'est un peu irréaliste là, de ce côté-là. Là.
Est-ce que votre fils vous a aidé un peu, justement, considérant qu'il ne faisait pas cet argent-là avant la pandémie? Est-ce qu'il vous a aidé, vous, qui arriviez pas?
Financièrement, non, là, mais il m'a aidé à la maison là, pour pallier. Là. Moi, j'ai des employés, j'ai des éducatrices spécialisées qui peuvent venir là, pour pallier au fait qu'il n'y avait pas d'école. Puis moi, ma fille s'est retrouvée aux soins intensifs aussi durant l'été. Pendant un mois. Donc, c'est fort possible qu'avec avec la pandémie qui se propage de plus en plus dans les écoles, qui referme les écoles et qu'on se retrouve encore je me retrouve encore avec cette situation-là. Puis, ce qui arrive, c'est que les centres de soins palliatifs pédiatriques ou les centres communautaires qui offraient avant des services pour 40 personnes par jour peuvent seulement en offrir pour 6 personnes par jour avec la nouvelle réglementation. Donc, on a une rareté de services et une réalité qui fait en sorte que c'est soit du travail. Il y a beaucoup d'épuisement physique.
Oui, tout à fait.
Financier également aussi.
Caroline, restez en ligne, on va prendre vos coordonnées. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu votre situation. Vous voyez, là, c'est un cas où, carrément, là, il y a des gens qui sont passés entre les cracks, là, qui n'ont pas répondu aux critères des programmes gouvernementaux, puis leur situation était tellement délicate et difficile avant la COVID que pendant, quand c'est arrivé, c'était encore pire. Il y a Marc qui me dit que ses voisins profitent de la PCU depuis mars. 4 adultes à la maison, 2 000 $ par mois. Et ils ne travaillent toujours pas plus depuis ce temps-là. Il y en a 2 parmi les 4, dit-il, qui sont chauffeurs de taxi. Puis ça a l'air qu'ils se sont achetés des voitures neuves. En tout cas, ça, c'est Marc qui regarde ses voisins agir puis qui trouve que ça n'a pas de bon sens. On a Michel qui nous appelle. Bonjour, Michel.
Bonjour, Madame Maréchal. Bravo pour votre
merci.
Programme.
Oui, vous en pensez quoi, vous?
Oui, je suis très d'accord avec le gouvernement fédéral du Canada. Bien sûr que certains sont des nantis, d'autres sont des pauvres. C'est comme ça que toute société humaine est formée. Mais
un peu plate que... avouer là que ça soit ou t'es pauvre ou t'es riche. Me semble que c'est un peu.
Ça peut. Ah, oui. Les sociétés humaines de tous les temps, madame, on sont toujours formées comme ça. Vous avez des extrêmes.
Ouais.
Vous avez un bout.
Ouais, je vais devoir. Il nous reste à peine une minute. Je vais demander à mes invités de réagir. Merci de votre appel, tout le monde. Bon, je voudrais parler à mes invités. Vous en pensez quoi de tout ça en conclusion là?
Deux choses. D'abord, c'est tout le discours sur la rigueur qui nous a amené aux mesures d'austérité des 10-15 dernières années au Québec. La dame qui expliquait le manque de services là, auprès d'un enfant lourdement handicapé, c'est le résultat direct de ceux qui ont tenu une ligne de rigueur et d'austérité, en commençant par M. Couateux et Barrette.
Voilà, mais ben, c'est tout le temps qu'on avait. Je suis désolée. Christian Dufour, politicologue, Jacques Létourneau, président de la CSN. Merci beaucoup.